France Inter.
Bonjour à tous. À la une ce matin, la visite officielle de Xi Jinping en France. Au programme, échanges économiques, relations diplomatiques et pression des associations écologistes. Pourquoi la France et la Chine entretiennent des relations si étroites depuis 60 ans et décryptage dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, des rassemblements aujourd'hui contre la transphobie, des chercheurs au chevet des termites et la fin prochaine d'une émission culte, des chiffres et des lettres avant votre invité à 8h20, Ali et Marion.
Un géo-historien pour nous mettre en appétit avec un sujet étonnamment peu traité mais qui va vous parler à l'heure du café croissant, le monde dans nos tasses, l'étonnante histoire du petit déjeuner. C'est le titre du livre de notre invité, Christian Grataloup.
Alors que vous soyez thé ou café, vos témoignages, vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui en France. C'est le Premier ministre Gabriel Attal qui doit l'accueillir sur les coups de 16 heures à l'aéroport d'Orly. Une visite d'État qui va durer 2 jours, lundi et mardi. Le dernier voyage du président chinois en Europe remonte à 2019. C'était juste avant la pandémie de Covid. Cette nouvelle visite officielle sera aussi l'occasion de célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Des relations spéciales et pour cause, Dominique André, la France a été le premier pays occidental à reconnaître la Chine de Mao Zedong.
L'annonce a été faite officiellement le 27 janvier 1964 par un simple communiqué en 5 lignes. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle reçoit la presse à l'Élysée et après 1 heure de conférence, il finit enfin par expliquer les raisons de ce tournant historique.
Il n'y a évidemment là, de notre part, rien qui implique aucune sorte d'approbation à l'égard du régime qui domine actuellement la Chine. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est.
Claude Martin, ancien ambassadeur de France en Chine, évoque un acte courageux.
Aux Nations Unies, c'était Taïwan qui représentait la Chine. Mais il restait que pendant ce temps-là, il y avait un pays qui, à l'époque, avait 850 millions d'habitants à peu près, qui était en train de se doter lui aussi de l'arme nucléaire. Il voyait dans la Chine le vieil empire chinois, pas du tout la puissance communiste.
Pour peser sur la Chine et garder aussi son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis qui crient au danger chinois, Emmanuel Macron va européaniser une fois de plus son entretien avec Xi Jinping. Il invite la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Paris demain.
Dominique André de la rédaction internationale de Radio France. Au programme de cette visite, les échanges économiques entre la Chine et l'Europe, les relations internationales avec plusieurs sujets. L'Ukraine, bien sûr, Paris aimerait que Xi Jinping pèse davantage sur son allié russe. Et puis le sort des opposants, les Ouïghours et les Tibétains. Les militants écologistes espèrent aussi que le climat sera au cœur des discussions. Le projet d'oléoduc en Ouganda et en Tanzanie de Total Energy, un projet très contesté, soutenu par la Chine. Romane est membre du collectif Stop Total.
Xi Jinping, le mois dernier, le président chinois a envoyé une lettre au président ougandais, Museveni, pour lui dire qu'il apportait son soutien au pipeline d'ICOP. En fait, cette lettre, elle intervient au moment où Total perd tous ses soutiens. Il y a 29 assurances et 28 banques qui ont annoncé ne pas soutenir ICOP. Il y a eu la résolution du Parlement européen en septembre 2022 qui demandait à Total un moratoire sur ce projet à cause de toutes les violations de droits humains, à cause des risques environnementaux. Et en fait, finalement, on voit que Total est prêt à s'allier à la Chine. Et pourquoi on va en parler maintenant et porter ce sujet maintenant? Parce que si notre président Emmanuel Macron va être assez crédible sur ces sujets climat, on veut qu'il parle au président Xi Jinping et lui dise que c'est pas possible de soutenir un nouveau projet pétrolier, alors que tous les rapports scientifiques disent qu'on peut pas avoir de nouveaux projets pétroliers ou gaziers si on veut rester sous les 1,5 degrés de réchauffement.
Une militante du collectif Stop Total interrogée par Rémi Brancato. À Tel Aviv hier, des milliers d'Israéliens ont manifesté pour un cessez-le-feu à Gaza et pour le retour des otages, 7 mois après le début de la guerre. Pendant ce temps-là, un accord de trêve entre Israël et le Hamas est bien sur la table au Caire. Mais pour le moment, les discussions semblent au point mort.
Et partout dans le monde, des étudiants bloquent des universités en soutien à Gaza. Et le président français donne justement son avis sur le sujet ce matin.
Oui, Emmanuel Macron les condamne avec la plus grande fermeté. Dans un entretien pour la Tribune dimanche, le chef de l'État se dit même favorable aux évacuations des étudiants par les forces de l'ordre. Non à la transphobie. Plus de 800 associations et personnalités s'opposent aux attaques contre les personnes transgenres dans une tribune publiée dans l'hebdomadaire Politis. Parmi les signataires, on retrouve l'autrice Annie Ernaux, le chanteur Bilal Hassani ou encore la comédienne Adèle Haenel. Plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui dans une trentaine de villes. Les manifestants entendent dénoncer un climat hostile à la transidentité, Alice Cachaner.
Entre la récente parution d'un livre jugé transphobe et une proposition de loi de sénateurs Les Républicains visant à interdire toute transition de genre aux mineurs, le contexte est particulièrement stigmatisant, alerte Alice Vaude, porte-parole de l'organisation de Solidarité Trans.
C'est vraiment un climat général qui est mené par la droite, mené par l'extrême droite, qui est un projet politique. Ils prétendent vouloir améliorer la santé des jeunes trans. Ce n'est absolument pas le cas. Les enfants trans ont besoin de ces soins. Maintenant que le mariage pour tous est passé, est accepté par la majorité de la société, ils ont besoin d'un autre cheval de Troie. C'est tombé sur les personnes trans.
Ce dimanche, aux côtés des associations LGBT, plusieurs représentants de la cause féministe. Pour Élie Boué-Jacqueline, du planning familial, ce qui est en jeu, c'est le droit à disposer de son corps.
C'est des personnes qui ont très bien compris que cibler les personnes trans comme des ennemis, c'est quelque chose qui malheureusement marchait bien, fonctionnait bien pour faire peur aux gens. Et c'est en utilisant cet argument-là que derrière, ils vont chercher à déconstruire tout un tas de droits, mais y compris le droit de femmes cis, c'est-à-dire derrière, on trouve des personnes qui sont contre l'avortement, par exemple.
Par ailleurs, les manifestants appellent les pouvoirs publics à faciliter les démarches pour les transitions de genre et réclament l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les personnes trans.
Alice Cachaner du service Sciences, Santé, Environnement de France Inter.
À 8h07 sur France Inter, les termites seraient-ils les grands gagnants du réchauffement climatique?
En tout cas, ils ont un potentiel destructeur colossal. Les dommages qu'ils causent sont estimés à plus de 40 milliards de dollars par an. Pour savoir quelles zones ces insectes pourraient investir à l'avenir, une équipe de chercheurs a modélisé leur répartition. Et ces scientifiques n'ont pas oublié d'intégrer les données sur le changement climatique, Sophie Becherel.
Leur plat favori, c'est le bois, mais les termites s'attaquent aussi aux racines des plantes agricoles. Issus des zones tropicales, ces insectes ont commencé à coloniser de nouveaux territoires. Et c'est par bateau de luxe qu'ils sont arrivés en Floride, par exemple, raconte Édouard Duquesne, doctorant au laboratoire évolution biologique et écologie de l'Université libre de Bruxelles.
Plusieurs études ont montré qu'il y a beaucoup de termites envahissants qui sont arrivés via les yachts, parce que les yachts, typiquement, ils vont faire des sauts de puce, par exemple dans les Caraïbes où il y a beaucoup de termites. Et puis à Miami, ils vont être attirés par les lumières de la ville ou alors du port et vont aller du bateau vers la ville.
Le scientifique a cherché à savoir où ces termites envahissants allaient se diriger à l'avenir suivant différents scénarios climatiques.
Plus on continue sur cette lancée d'émettre beaucoup de CO2, de s'urbaniser beaucoup, de fragmenter la planète en général, donc plus on a un scénario pessimiste, plus le nombre de termites envahissants pourrait être élevé et plus les territoires sur lesquels ils se trouveraient seraient grands, surtout les villes très connectées, Paris, Londres.
Bonne nouvelle, chacun d'entre nous peut agir grâce aux sciences participatives. Si on trouve un ou des termites, il suffit de les prendre en photo, de poster les clichés sur l'application iNaturalist, iNaturalist en français. Cet outil de suivi de la biodiversité va permettre aux scientifiques d'alerter à temps et d'agir, car le termite est lent, il est possible de l'endiguer si on le localise avant l'invasion.
Les termites, merveilleux sujet de série à l'avenir, mais pas encore à l'affiche. En revanche, sur Netflix, vous pouvez regarder Fiasco, une mini-série où Pierre Ninet joue les cinéastes. Une comédie potache, un casting de choix, 7 épisodes de 27 minutes, mais pas toujours très bien dosé, Alexandra Akoun.
Le fiasco du titre, c'est celui du tournage du premier film de Raphaël Valande, jeune réalisateur pas très vif.
Tu peux dire action.
Action.
Ah, plus fort.
Plus fort.
Ah non, tu dis action plus fort.
Action !
Son ambition avec ce long métrage, rendre hommage au passé de résistante de sa grand-mère, être enfin reconnu par les siens.
Ça va le faire là, faut que tu te reboostes. Hein. Oublie ce que va penser ta grand-mère ou tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme, c'est pas le moment là.
Hein ? Pourquoi qui dit ça ?
Une entreprise qui dès le départ va enchaîner catastrophes et déconvenues.
Coupé !
Non, non, c'est Raphaël qui dit coupé !
Non mais c'est son pied qui est coupé !
Pierre Ninet, Géraldine Nakache, François Civil et des guests comme Vincent Cassel, Marie-Christine Barrault. Avec un tel casting, on attendait des étincelles. Pourtant ici, tous semblent sous-performés, perdus dans un océan de blagues potaches qui tombent régulièrement à plat. Igor Gottesman et Pierre Ninet, qui ont écrit ensemble cette série, ont beau se réclamer adeptes du cringe, ce comique malaisant et grinçant à la The Office, n'est pas Ricky Gervais qui veut. Problème de rythme dans ces 7 épisodes, de cohérence aussi, face à ce qui ressemble plus à une succession de sketchs qu'à un vrai récit. Et certaines scènes, comme une crise de diarrhée collective en pleine interview avec Claire Chazal, deviennent carrément insupportables.
What the fiasco.
deux consonnes et une voyelle. Fin. L'émission des chiffres et des lettres s'arrête à la fin de la saison. C'est le directeur des programmes de France Télévisions qui l'annonce. Ce programme a existé depuis 1972. L'émission sera remplacée par le jeu des 1000 euros, la version télévisée du cultissime quiz de France Inter. Le jeu des 1000 euros à la télé, ce sera bien évidemment présenté par Nicolas Stoufflet les samedis et dimanches à partir de septembre prochain.
France Inter, 8h10, le journal des sports.
Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour à tous.
La France n'a jamais gagné la Coupe du Monde de rugby, mais en Coupe d'Europe, les clubs français sont archi-dominateurs.
11 victoires françaises en 28 éditions, dont 5 rien qu'au stade toulousain et peut-être bien 6 d'ici quelques semaines. Les Rouges et Noirs reçoivent les Anglais des Harlequins à 16h cet après-midi en demi-finale pour marquer un peu plus l'histoire du meilleur club français, Fanny Lechevestrier.
Une génération dorée qui en est déjà à sa 6e demi-finale d'affilée en Champions Cup. Impressionnant, mais pas suffisant pour le capitaine Antoine Dupont.
Tant qu'on a cette capacité, ce potentiel de gagner, mais ce potentiel, il se vérifie que quand on soulève un trophée, donc à nous de continuer à marquer l'histoire du club.
Et en écoutant le manager du stade toulousain, Hugo Mola, on jurerait que cette année peut être enfin la bonne, après avoir échoué par deux fois aux portes de la finale.
Cette équipe-là, elle a beaucoup d'appétit. Cette génération, elle est un petit peu différente. C'est des gamins que j'ai eus entre 19 et 21 ans et qui maintenant ont entre 26 et 30 ans. Donc ils se sont aguerris aux joutes internationales, ils se sont aguerris en jouant des demi-finales régulièrement. C'est pas neutre d'être à la 6e demi-finale d'affilée.
Ou l'histoire d'une équipe, certes bourrée de talent, mais surtout que le club a laissé grandir, raconte l'international Romain Tamac.
C'est la philosophie de jeu qui est perpétuée des grands jusqu'aux plus petits. Et la permission de tromper, c'est ce qui fait aussi qu'on peut s'exprimer librement sur le terrain, qu'on n'a pas peur de tenter les choses sans se le reprocher derrière. Donc c'est moi ce qu'on m'a appris depuis petit, ce qu'on m'apprend toujours aujourd'hui en équipe une. Donc, et c'est sûrement pour ça que ça marche aussi bien.
Ainsi, cet après-midi, 13 des 23 Toulousains alignés face aux Harlequins sont issus du centre de formation du club.
Stade toulousain, Harlequins, coup d'envoi à 16h. Le vainqueur jouera en finale les Irlandais, déjà qualifiés du Leinster le 25 mai prochain à Londres.
Le autre club qui s'approche du titre européen, Metz en handball féminin.
Après une victoire hier soir 29-23 face à Bucarest en Roumanie, le Metz handball a validé son ticket pour la finale à 4 de la Ligue des champions féminines. Pour la deuxième fois en 3 ans, la capitaine fatiguée Chloé Valentini en a les larmes aux yeux.
J'ai pas beaucoup dormi pendant 2 semaines, je suis encore un peu émue parce que c'est dur physiquement, mentalement, de toujours se remettre en question, de toujours vouloir avancer, donner le maximum pour l'équipe, pour tous les gens qu'il y a autour aussi. Et je le dis pas souvent, mais je suis fière aujourd'hui, fière de l'équipe, fière de moi et avec une hâte de repartir au boulot, d'aller au Final Four avec le max de confiance et j'y crois en fait.
Et avant de s'envoler pour les demi-finales et peut-être la finale à Budapest, les Lorraines iront défier Brest mercredi prochain pour une première place en championnat.
Avantage Monaco pour la qualification en Ligue des Champions.
Oui, pour le PSG en Ligue 1, c'est fait. Ils sont champions et assurés de la rejouer l'année prochaine. Derrière, il ne reste qu'une place à qualification directe et elle tend les bras à l'ASM qui n'a fait qu'une bouchée des derniers hier soir. Clermont, victoire 4-1 de l'ASM. Et puis en Ligue 2, voilà ce que les supporters d'Auxerre ont chanté hier soir après leur victoire 2-0 face au Paris FC. On est en Ligue 1, c'est fait pour Auxerre l'année prochaine. Saint-Étienne et Angers sont les deux autres clubs candidats à la montée en Ligue 1. Et puis Mbappé portera-t-il le maillot des Bleus aux Jeux Olympiques? C'est la question la plus posée dans les couloirs de France Inter en ce moment.
Réponse.
L'affaire n'est pas complètement enterrée. Dans une interview au journal La Tribune, Emmanuel Macron raconte qu'il a rencontré le père du joueur et qu'il en a toujours l'intention. J'espère que tous les clubs européens, sous-entendu le Real Madrid, a dit le chef de l'État, laisseront cette liberté aux joueurs.
Merci Guillaume Batin, c'était le journal des sports.
Suspense dans le journal de Victor Dolande, il est 8h14.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Céline Dacosta, encore des nuages et de la pluie aujourd'hui.
Oui, et ça dès ce matin avec un ciel bien nuageux, faiblement pluvieux sur toute la moitié nord. On aura même dans la matinée une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne. Elle s'étendra des Pays de la Loire à la Normandie en donnant des pluies localement un petit peu plus importantes. Encore quelques éclaircies ce matin sur la moitié sud, mais la situation va se dégrader cet après-midi. Ce sera le retour des orages par le sud-ouest. Orages parfois forts avec de la grêle, de bonnes quantités de pluie également. Ils vont se déplacer ces orages sur un axe sud sud-ouest, nord-est dans le courant de l'après-midi. Le relief des Alpes sera également concerné par ces orages, mais ça sera en fin de journée. Pour la moitié nord, l'après-midi sera plus calme sur le quart nord-est avec le retour de quelques éclaircies, mais encore pluvieux sur le nord-ouest. Pour le sud-est, là, on va rester au sec toute la journée. La pluie pour le sud-est, ça sera demain.
Et un mot des températures avec quelques températures chaudes cet après-midi.
Oui, 24 degrés dans le sud-ouest. La moyenne sur l'ensemble du pays ira de 15 à 24 du nord au sud. 24, c'est pour Tarbes. Ce matin, c'est moins froid que ces derniers jours, mais toujours juste pour la saison par endroit, puisque la moyenne va de 7 à 15 du nord au sud.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h15, Géopolitique.